Le silence des petits papiers, chapitre 8. Le guide ne s'était pas trompé. Dans cet endroit du bout du monde, en Algarve, il existait des activités et des gens insolites. Passer quelques jours de vacances dans ces contrées, c'était s'aventurer en pays inconnu. Parcourir la Serra de Montchique au printemps procurait un plaisir gourmand. Au loin, la ligne d'horizon se confondait avec l'océan Atlantique. Au plus fort de l'été, des grappes de touristes s'aggloméraient sur les plages. L'argent remplirait les caisses des promoteurs peu scrupuleux qui défiguraient sans vergogne le littoral avec la bénédiction intéressée des autorités. Il pleuvait sur les collines. La flore appréciait ces ondées rafraîchissantes. Profitant du moment pour se constituer des réserves en vue des grosses chaleurs estivales. Un couple de visiteurs égarés dans l'arrière-pays s'abritait sous l'étroitesse d'un parapluie usé par les intempéries. Ils grimpèrent les ruelles du village ancien. Ils atteignirent l'église et s'attardèrent à contempler le porche d'entrée de style baroque manuelin. Ils profitèrent d'une éclaircie pour immortaliser leur passage. Le flash crépita, ils se contentèrent de photos prises à l'extérieur, car les lourds vantaux ne consentirent point à s'ouvrir. Comme dans l'Hexagone, les lieux de culte et leurs trésors ne résistaient au pillage que par des mesures draconiennes, dont la fermeture la plupart du temps. Ils possédaient un exemplaire d'un manuel du routard. Certes, il s'agissait d'un millésime périmé. À l'inverse du bon vin, il ne se bonifiait pas en vieillissant. La majorité des bonnes adresses et des bons plans devenaient obsolètes en l'espace de 2 saisons. Ils avaient acheté ce bouquin lors d'un précédent séjour au Portugal 4 ans plus tôt. Les cloches sonnèrent 12 fois. Ils continuèrent leur balade. Ils s'engagèrent dans la rue João Pinto. Le mémento signalait une gargote à l'accueil et à la décoration inhabituelle. Ils ne trouvèrent pas l'estaminet. Ils arpentèrent le pavé, mais rien à faire, le restaurant central se refusait obstinément à leurs yeux. Ils se firent une raison. Leur voiture les attendait, garée sur une place en contrebas. Une descente d'escalier, des murs blanchis à la chaux, avec au bout un arceau où s'enroulait un rosier aux fleurs blanches. Les roses exhalaient leur senteur après l'averse. L'homme secoua le feuillage. Des gouttes d'eau aspergèrent sa compagne. Ils regagnèrent leur auto et choisirent de se restaurer en dehors de la cité. À la déception succéda la faim. L'estomac criant famine, ils partirent en quête d'un estaminet. Ils échouèrent dans une auberge où l'abondance des plats vint à bout de leur fringale. Un bon vin de pays les rendit joyeux. Ils burent entièrement la bouteille posée à leur disposition. Par prudence, ils décidèrent de visiter à pied la station thermale située à moins de 2 kilomètres. Cette promenade digestive leur permit d'apprécier le site magnifique. Les thermes, installés depuis plus d'un siècle, dominaient une petite rivière. Le pont et la cascade instauraient une ambiance bucolique. Ici, tout sommeillait. Les quarts de vacanciers et de curistes déverseraient leurs flots dans 2 semaines. La cité ne serait plus un havre de paix accueillant, mais une plaque tournante du commerce local. Ils se baladèrent tout l'après-midi, une brise marine ayant chassé les nuages. Le soleil brillait sur la végétation. Ils se rendirent jusqu'à un barrage proche. Le lac, dans un écrin coloré par les lavandes et les cistes, leur donna envie de musarder. Ils se posèrent sur un promontoire et admirèrent le miracle des beautés de la nature. Lorsqu'ils rejoignirent leur véhicule, le ciel rougeoyait à l'horizon. L'astre du jour se retirait. La nuit poserait bientôt son manteau de ténèbres. La lumière irréelle de cette fin de journée se reflétait dans les eaux sombres. Le tableau ressemblait à un Goya. Ils écarquillaient leurs yeux ébahis. Ils voulaient absolument pousser la porte du restaurant central. Ils refirent le circuit parcouru quelques heures auparavant. l'église illuminée révélait davantage les détails de son style manuelin. Le porche torsadé en était le principal attrait. Ils s'aventurèrent dans une ruelle montante. Ils ne rencontrèrent âme qui vive. Leurs pas résonnaient sur les pavés. Un chat famélique traversa entre leurs jambes. Une vitrine recouverte de vieux journaux attira leur attention. Ils s'approchèrent. Ils s'étaient trompés. En guise de journaux, une multitude de rectangles de papier tapissaient la grande vitre. Sur chaque papillon, des remerciements étaient formulés. Ils venaient de trouver ce qu'ils cherchaient. La porte entr'ouverte d'une dizaine de centimètres laissait filtrer une pâle lueur. La femme, plus hardie, poussa le battant et pénétra à l'intérieur. Le temps de s'habituer à la pénombre, ils découvrirent un lieu insolite. De multiples guirlandes pendaient de tous côtés. Au fond, assis sur un fauteuil, une blonde patientait. La tenancière se leva et vint à la rencontre de ses clients. Elle alluma une lampe. L'ampoule, de faible puissance, maintenait l'endroit dans un halo où l'ombre l'emportait sur la clarté. Le guide touristique ne mentait pas. Leur interlocutrice se partageait entre Jane Mansfield et Marilyn Monroe. Un blond platine, des lèvres peintes en rouge vif, un fond de teint appliqué à la truelle, telle se présentait l'hôtesse. Ce personnage sans âge leur souriait de ses dents jaunies par le tabac. Elle les invita à se poser. Ils prirent possession des lieux. La salle exiguë abritait 5 tables sur 2 niveaux. Au-dessus d'eux et tout autour, des milliers de papiers ressemblant à des ex-voto. Ils parcoururent quelques feuillets écrits dans toutes les langues. Chaque papier tressait une couronne de laurier à l'établissement et surtout à sa maîtresse. Un vieil homme venu de la partie privative se fraya un chemin. Il avançait péniblement avec une canne. Son pas donnait l'impression qu'il soulevait une tonne à chacune de ses enjambées. Son pantalon noir, blanchi par l'urine, tombait en plis disgracieux sur ses charentaises. Ce devait être le mari ou le compagnon de la vieille star. Elle l'invectiva plusieurs fois. Il hocha négligemment la tête en continuant d'avancer, tel un automate aux piles usées. Le client se leva pour lire quelques louanges. De nombreux langages cohabitaient. Certains avaient écrit 2 lignes, d'autres, plus épistolaires, avaient noirci leur petit rectangle. La pièce recelait des tranches de vie depuis 48 ans. Des billets datés et jaunis en attestaient. Marilyn proposa son plat unique, le poulet sauce pili-pili. Elle repartit en cuisine, non sans avoir débouché un vin corsé d'Algarve. Le vieillard réapparut une baguette de pain sous le bras. Il trébucha et s'y prit à 2 fois pour monter la marche, séparant les 2 parties de la minuscule enceinte. Nos convives en conclurent qu'il était ivre. Il se fit houspiller 1 fois de plus. Ils réalisèrent quelques clichés de cette caverne d'Ali Baba, en songeant à tous ces routards qui s'étaient succédé devant la spécialité de la maison. Ils se régalèrent, mais l'usure faisait son œuvre. La patronne leur confia que l'affaire était en vente. Un brin de nostalgie passa dans son regard à l'évocation de tous ces papillons rédigés sur un coin de table au fil des ans par des jeunes et qui sait peut-être aussi par leurs enfants. Ils réglèrent l'addition et sortirent avec un sentiment mitigé. Ils avaient conscience d'avoir fait une découverte hors norme, mais aussi d'assister à la fin d'un rêve et aux prémices d'une agonie. Comment cette Marilyn de bazar pourra-t-elle supporter de laisser ce qui fut sa raison de vivre ?